I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous avez 5 minutes?
C'est l'histoire d'un pays aux très nombreuses confessions, le Liban, où musulmans chiites et sunnites se côtoient et où des tensions régulières naissent de la proximité politique de l'Iran chiite d'un côté et de l'Arabie saoudite sunnite de l'autre. Et comme toute histoire, elle se répète. Début novembre, le Premier ministre Saad Hariri, à la tête d'une coalition gouvernementale stable depuis un an, annonce sa démission, mais pas depuis Beyrouth, depuis Riyad en Arabie saoudite. On a demandé à Pascal Monin de nous aider à comprendre pourquoi. Il est professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Pascal Monin, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 4 novembre, le Premier ministre n'est plus au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Ce qui s'est passé le 4 novembre, à la demande de l'Arabie saoudite, le Premier ministre libanais se rend d'urgence en Arabie saoudite, alors qu'il y était quelques jours auparavant, sans même prévenir ses plus proches collaborateurs. En fait, à la surprise générale, le Premier ministre libanais est apparu à la télé, pas sur une chaîne de télé libanaise, mais sur une chaîne de télé saoudienne, à partir de l'Arabie saoudite. On le voit apparaître à la télé et démissionner. Depuis cette démission du 4 novembre, le contact avec le Premier ministre était difficile. Et donc, on a commencé à avoir des soupçons sur: est-ce que le Premier ministre a démissionné de sa propre initiative? Est-ce qu'il en a été obligé par le prince héritier saoudien? D'autant plus que ce 4 novembre, cela a coïncidé avec la purge qu'a lancée le prince héritier en Arabie saoudite, avec l'arrestation de plusieurs ministres, anciens ministres, hommes d'affaires, princes. Et donc, on se posait des questions, car selon la Constitution, et selon la tradition, le Premier ministre qui démissionne devrait présenter sa démission au président de la République, et non pas à la télévision, et encore plus à travers les télévisions étrangères. On était de plus en plus convaincus que la situation de Saad Hariri en Arabie saoudite était une situation qui n'était pas normale. Ça s'est jamais vu qu'un Premier ministre soit retenu contre son gré, plus ou moins comme otage, dans un autre pays, et que l'autre pays essaye de montrer que ce n'est pas vrai.
Et qu'est-ce que sa politique avait de si dérangeant pour l'Arabie saoudite?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, alors que le Liban se trouvait sans président de la République, le Premier ministre Saad Hariri, qui est le chef du courant du futur, à majorité sunnite, arrive à un accord avec le chef du courant patriotique libre, le général Michel Aoun, pour un compromis pour l'élection du président de la République, qui a vu élire le général Michel Aoun, président de la République, et nommé comme premier ministre Saad Hariri. Et donc, depuis un an, le Liban a vu se former un gouvernement où sont plus ou moins représentées la plus grande partie des forces politiques local. Et donc, c'était une façon d'essayer d'arriver à un compromis pour avoir le moins de difficultés ou de répercussions de ce qui se passait au Moyen-Orient. Donc, plus ou moins, le gouvernement est arrivé à pas mal de décision. Un budget, par exemple, a été voté pour la première fois, alors que depuis 2005, un budget n'était pas voté au Liban. Une nouvelle loi électorale a été décidée. Un train de nomination. Mais en contrepartie, restait toujours le problème, en fait, qui était le reflet du conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, sur l'influence qu'ils ont sur la région, et notamment parce qu'au Liban se trouvait au sein du gouvernement une force politique qui est le Hezbollah. L'Arabie Saoudite accuse le gouvernement libanais de n'avoir pas mené cette politique de distanciation et de se tenir à l'écart des conflits, puisque, dit l'Arabie Saoudite, le Hezbollah et ses alliés, l'Iran, sont impliqués directement en Syrie, en Irak, et surtout au Yémen. Et donc, en contrepartie, le Hezbollah et ses alliés aussi ont un discours qui est le même sur les interventions saoudiennes, par exemple au Yémen ou ailleurs.
Mais pourtant, Saad Hariri, il était considéré comme un interlocuteur privilégié des Saoudiens. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois ?
Ce qui s'est passé, c'est que avec les changements qui sont opérés actuellement en Arabie Saoudite, se pose aussi la question du changement de la politique régionale de l'Arabie Saoudite. Une nouvelle politique commençait à être observée, une politique de fermeté. Au Yémen, ils n'ont pas pu obtenir des résultats. En Syrie, leurs alliés ont perdu la guerre. Au Liban, le Hezbollah est considéré par l'Arabie Saoudite comme tout puissant. En Irak, avec la reprise en main du territoire face à Daesh par le gouvernement irakien, aussi, donc, c'est une perte de terrain d'une manière ou d'une autre de l'Arabie Saoudite. Et donc, il se pourrait que ce durcissement du discours face à l'Iran et face au Hezbollah à travers le Liban ait pour cause ce que je viens de vous expliquer.
Du coup, à partir de ce que vous dites, on peut dire que l'Arabie Saoudite voulait déstabiliser la vie politique libanaise. Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui mission accomplie ?
Alors, il y a eu l'effet exactement contraire à celui escompté par les autorités saoudiennes, mais il y a eu une tentative sérieuse de se débarrasser, une tentative saoudienne de se débarrasser de Saad Hariri et de le remplacer par son frère. Mais c'est une tentative qui n'a pas fonctionné parce que justement les Libanais ont su s'unir autour de cette question du Premier ministre. Le président de la République a su gérer cette crise en disant qu'on ne parle de rien, on ne traite rien avant que le Premier ministre ne soit revenu au Liban, avant qu'il ne soit libre. Et donc cette affaire, au lieu qu'elle soit une pression politique voulue par l'Arabie Saoudite sur le Hezbollah, elle a au contraire plutôt montré les ingérences aussi saoudiennes que eux-mêmes les Saoudiens reprochaient à l'Iran ses ingérences dans les affaires libanaises et moyen-orientales. Donc en réalité, ce pauvre pays, le Liban, se trouve à nouveau au cœur de ce conflit, comme une caisse de résonance de ce conflit et de cette guerre froide que se font l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Est-ce qu'on peut dire que Saad Hariri est toujours légitime comme Premier ministre aujourd'hui ?
Cette unité rare au Liban en général a su préserver le pays de changements ou de répercussions majeures. La vie continue, mais on n'est pas dupes, les Libanais ne sont pas dupes de durs moments et une période d'instabilité sûrement attend ce pays par les conséquences non seulement de cette démission, la suite de cette démission, ce qui va se passer, est-ce qu'on aura un gouvernement, est-ce qu'on aura une période de flottement, une période sans gouvernement, d'autant plus que des élections législatives sont prévues au mois de mai. Tant que le Premier ministre est au cœur de cette affaire, qu'il a été retenu, qu'il part en France, etc., tant qu'il n'est pas revenu au Liban, s'impliquer dans la politique quotidienne, oui, il fait l'unanimité. Et je pense que le Premier ministre s'est rendu lui-même compte de cet élan d'affection, que le président de la République lui a montré. Le président a déclaré clairement, il a dit, c'est comme mon fils, nous sommes arrivés ensemble au pouvoir et nous le quitterons ensemble. Donc, c'est très rare. Moi, j'ai rarement vu un élan symboliquement unir le pays. Peut-être on l'a vu en 2005, après l'assassinat de son père, le président Rafik Hariri, où nous avons vu cet élan aussi se dessiner, et puis très vite, les divisions ont repris le dessus, les divisions politiques, confessionnelles ou autres. Et aujourd'hui, il y a cet élan qui est assez clair. S'il sait en profiter, le Premier ministre, s'il continue dans son élan à faire de la politique, mais de la politique pour tout le pays, peut-être qu'il pourrait continuer à incarner l'unité du pays.
Merci, Pascal Menin.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.